Radio Star.
Morning edition from NPR News.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et si on allait au cinéma à Bangui, c'est pas forcément l'endroit auquel on pense spontanément, mais justement c'est important de voir des films, d'en fabriquer aussi dans un pays, la Centrafrique, qui n'en a pas fini avec sa guerre. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, dans un instant, sous les radars, et Hélène Roussel, vous l'avez entendu, en Mauritanie, aux Philippines, en Sibérie, 18h50, l'Europe, on l'aime ou on la quitte, avec Angélique Bouin et les Belges, qui sont beaucoup plus mauvais conducteurs, les plus mauvais conducteurs de l'Union, même 18h55, le monde à l'envers, de Jean-Marc Four, qui a écouté Vladimir Poutine parler pendant plus de 4 heures, parce que même s'il reste fort, il entend des grognements, le président russe. Avant cela, nous allons dans 3 pays d'un coup. Allez, le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le
Quand
monde.
Les journalistes disparaissent, les histoires restent. Dit différemment, on peut toujours tirer sur le messager. L'histoire qu'il transmet est encore là. Et quand on dit tirer sur le messager, c'est parfois au premier sens du terme. Des journalistes sont tués dans le monde, vous le savez, parce que leur travail dérange. Un chiffre, par exemple, depuis 2009, 13 journalistes sont morts pour avoir couvert uniquement des affaires liées à l'environnement. Et c'est à ça que sert Forbidden Stories, dont on a déjà parlé ici dans Un jour dans le monde. On est ravis de le refaire, ressortir ces histoires précisément pour les faire vivre. On est nombreux autour de la table pour en parler. Je commence avec vous. Bonsoir Benoît Colombat.
Bonsoir.
Les auditeurs savent qui vous êtes puisque vous travaillez pour la cellule d'investigation de Radio France qui fait partie du consortium de journalistes de Forbidden Story. Bonjour à vous. Jules Giraudat. Bonsoir,
bonsoir
Jules. Et bonsoir. Bonsoir Arthur Bouvard.
Bonsoir.
Qui avait refait vous aussi des histoires. On verra ça les uns après les autres. Benoît, juste en un mot d'abord, je voudrais qu'on redonne du sens à tout ça et qu'on réexplique aux gens c'est quoi Forbidden Stories. Qu'est-ce que vous allez chercher et comment ça se passe après?
Alors Forbidden Stories, c'est une initiative vraiment très très singulière. Je dirais, pour résumer le sens de ce que fait Forbidden Stories, il y a 3 verbes finalement qui peuvent résumer ça. D'abord, c'est protéger. Ensuite, c'est prolonger. Et ensuite, c'est collaborer. Protéger des journalistes qui sont menacés dans leur pays pour le travail qu'ils mènent, leurs investigations. Il faut ensuite prolonger ces enquêtes parce que parfois, ces journalistes, ils ne sont pas seulement menacés, ils sont aussi assassinés. Et donc, d'une certaine façon, comme vous l'avez dit, on peut éventuellement tuer le messager, mais pas le message. Et puis, collaborer, c'est très important. Ça veut dire que c'est un travail collectif de journalistes du monde entier qui vont, main dans la main, prolonger ces enquêtes-là en partageant leurs sources et leurs informations.
Comment vous décidez de qui reprend quoi, en fait? Parce que des affaires de ce genre, il doit y en avoir beaucoup, hélas. Comment vous vous dites ça? C'est suffisamment universel pour que ça intéresse effectivement tous les pays qui sont concernés?
Oui, en fait, c'est des affaires qui peuvent sembler locales, mais finalement qui ont un impact mondial. Ça peut concerner les affaires de corruption. Il y a eu un projet déjà Forbidden Stories qui concernait cette journaliste à Malte, Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur les affaires de corruption, le Daphne Project.
Et qui est toujours
qui
en
a
cours,
été
on
tué,
travaille
voilà,
toujours dessus.
Avec un explosif, sa voiture a été piégée. On voit bien, et ça c'est au cœur de l'Union Européenne. On voit bien que donc ce sont des problématiques qui dépassent l'endroit où ces informations ont été révélées. Et là, pour le Green Blood Project, ce sont des questions qui touchent tout le monde, on le comprend bien, sur l'environnement, des pollutions, des violences. Et on voit bien aujourd'hui, avec cette actualité qui touche l'impact environnemental et écologique, que ce sont des affaires qui sont mondiales.
Juste un dernier mot, Benoît, parce qu'on se retrouvera juste après pour parler de l'Inde, ce sur quoi vous avez travaillé, qui est la mafia du sable, précisément sur un sujet comme le vôtre. Pour reprendre l'affaire, vous êtes combien? Et à un moment, le partage se fait comment, en fait, pour que chacun puisse écrire au même moment?
Là, sur ce projet-là, il y a une quarantaine de journalistes avec une publication dans une trentaine de pays. Pour prendre le cas de l'Inde, par exemple, il y a 2 histoires différentes. Il y a, par exemple, le cas d'un journaliste qui a été retrouvé mort dans des conditions extrêmement suspectes. Donc là, tout le monde reprend cette enquête-là et la prolonge. Et justement, il y a une journaliste emblématique qui s'appelle Sandhya Ravi Shankar, et ce soir on dévoile justement ces investigations qui depuis plusieurs années travaillent sur la mafia du sable.
On y reviendra dans un instant, on va aller dans 2 autres pays, la Tanzanie et le Guatemala, pour parler au fond de choses assez similaires. Là aussi, on va commencer avec vous Arthur Bouvard, là aussi, au fond, il y a un point commun quand même entre ce qui se passe en Inde, que nous décrira Benoît, ce qui se passe en Tanzanie, ce qui se passe au Guatemala. On parle d'environnement, on parle de mines, parce qu'au fond, que ce soit de l'or ou que ce soit du nickel, on se rend compte que les conditions d'exploitation sont des gens, tout ce qui peut se passer autour sont les mêmes d'un pays à l'autre.
Exactement. On a décidé de s'intéresser à l'industrie minière particulièrement parce que c'est l'une des plus destructrices et des plus polluantes au monde. Les schémas qu'on a retrouvés dans chacun des pays, c'est souvent une entreprise qui est toute puissante, une mine qui est toute puissante au milieu d'une population locale qui souvent ne bénéficie pas d'ailleurs des retombées économiques de l'activité.
Et en Tanzanie, c'est de l'or notamment, c'est d'or dont on parle.
Oui, on parle d'extraction d'or et de production de lingots directement qui sont fabriqués en Tanzanie et exportés à l'étranger.
Je voudrais qu'on écoute ce monsieur, il s'appelle Jabir Idrissa, vous allez nous expliquer qui c'est Jabir.
Pre-occupation.
Le journalisme est mon métier, c'est dans mon sang. Nous avons publié des reportages d'investigation, nous avons beaucoup écrit sur le secteur minier.
Je consacre mon temps, mon énergie pour aider mon pays. Mais le gouvernement considère que nous les harcelons, à tel point que nous nous sommes attirés des ennuis. Je suis au chômage depuis 2017 parce qu'ils ont fermé les deux journaux pour lesquels je travaillais. On dirait que lorsqu'un journaliste fait son travail, il devient un ennemi. S'il enquête trop sur les puissants et leurs méfaits, il s'attire des ennuis. Le journal ferme et il doit affronter de longues procédures judiciaires. Moi, par exemple, j'ai une procédure ouverte contre moi depuis 2016. Ça me rend très triste.
Là, un extrait de l'enquête donc, qu'on peut retrouver évidemment sur le site de Forbidden Stories et qu'on commence à pouvoir lire effectivement, qu'on peut lire depuis mardi d'ailleurs, celle de Tanzanie, depuis mardi dans beaucoup de journaux. Qui c'est Jabir Idrissa? C'est lui que vous protégez au fond parce que lui ne peut plus faire son boulot correctement, on l'a entendu, il n'y a plus de journaux même pour écrire ses histoires.
Oui, Jabir Idrissa était rédacteur en chef d'un des principaux journaux d'investigation de Tanzanie qui s'appelle Mwayo. Il travaillait aussi pour un autre journal qui s'appelait Mwanalisi. Jabir, je l'ai rencontré au mois de mars au fond d'un café à Dar el Salaam. Il était venu exprès de Zanzibar pour me rencontrer. Il était extrêmement stressé à l'idée de parler à un journaliste occidental. Il a enquêté en fait depuis 10 ans sur l'industrie minière et notamment une entreprise en particulier, Acacia, qui produit l'or en Tanzanie. Il s'est d'abord intéressé il y a 10 ans aux problèmes environnementaux, aux fuites de produits chimiques autour de la mine. Et en 2017, avec son équipe, ils ont décidé d'enquêter sur le côté économique, à savoir comment ces contrats sont signés, quelles sont effectivement les taxes qui reviennent ou non à l'État tanzanien. Quelques heures après avoir publié leur enquête, ils ont reçu une notification du ministère de l'Information qui ordonnait une fermeture du journal pendant 2 ans.
Vous citez aussi, parce qu'on l'entend, une femme qui a été violée dans des circonstances épouvantables, et tout ça, parce que vous le montrez aussi, tout ça, les exploitants de la mine le savent. Ils en sont parfaitement conscients, puisque c'est eux aussi qui achètent ces silences-là. Et quand on parle d'exploitants de la mine, on parle de quoi? Parce que cet or-là, il arrive où, en fait? Est-ce qu'on en a, nous, ici, de cet or-là, qui est extrait dans ces conditions-là, qui vaut des viols à certaines et une interdiction de travailler pour d'autres?
Alors, oui, effectivement, on a enquêté. Très rapidement, on a su que l'or quittait la Tanzanie. On a réussi à remonter jusqu'au raffineur, qui se trouve en Inde. Et c'est un raffineur qui travaille avec des...
Allez-y.
Et c'est un raffineur qui travaille avec énormément de sociétés d'électronique, comme Apple, Nokia, plein d'autres. Il y a plus de 500 entreprises en fait qui se fournissent en or auprès de ce raffineur.
Ça fait partie, c'est comme ça que ça nous amène au Guatemala doucement et à cette fameuse mine de nickel, Jules Giraudot. Ça fait partie de tous ces ingrédients que nous avons tous là, dans les portables, sur lesquels nous fermons largement les yeux. On ne veut pas savoir dans quelles conditions les choses sont extraites, on ne veut pas savoir... qui travaille comment dans ces pays-là. Au fond, ce que vous avez vu au Guatemala est un peu similaire, Gilles Giraudot. Au fond, en tout cas, l'esprit, la manière dont les gens travaillent et comment on fait taire les journalistes ont un véritable effet miroir à ce qu'on entend en Tanzanie.
Oui, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces trois pays, parce qu'on pense qu'il y a une menace globale contre les journalistes qui enquêtent sur des sujets environnementaux, que ça soit en Inde, en Tanzanie ou bien au Guatemala. En Tanzanie, c'est la plus grande mine de nickel d'Amérique latine. Le nickel, ça sert à faire de l'inox, des produits qui sont du quotidien dans notre cuisine. Et on se rend compte qu'il y a des violations des droits humains, la contamination de l'air, d'un lac. Et quand les communautés essayent d'élever la voix, essayent de demander des réponses, que ce soit aux autorités ou à l'entreprise, ils se font réprimer.
Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce qui se passe là-bas. Justement, vous parliez de pollution de l'air. Voici comment ça se passe.
Look. Yes, here is very high.
Alors on n'a pas traduit, on l'a fait volontairement, Gilles Giraudet. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui est en train de se passer. En fait, on a tout simplement un compteur, un portable à la main pour voir ce que dit l'environnement autour, et les pics sont désespérément hauts.
Oui, c'est un tout petit outil qui permet de mesurer la concentration en particules fines. Donc les particules fines, ça peut venir de moteurs diesel, mais ça peut aussi venir d'usines, comme cette usine de nickel. Et donc on est avec Mickaël, un journaliste portugais, et Anne, une journaliste du Monde. Et on est en train de mesurer des pics de particules fines qui sont équivalents à une ville comme Pékin. Juste pour vous donner une idée de Elestor, c'est un petit village au milieu d'un écosystème absolument merveilleux avec un lac, des forêts. Et pourtant, ces gens respirent un air extrêmement pollué.
Et le journaliste, encore une fois, là aussi, le ou les d'ailleurs que vous protégez, s'appelle Carlos Choc en particulier. C'est quoi l'histoire de Carlos Choc?
Carlos Choc, c'est un journaliste de la communauté indigène Maya et qui en fait enquêtait sur la contamination de cette entreprise minière. Et aujourd'hui, il risque 30 ans de prison. Il y a une photo qui est au départ de tous ces ennuis. Le 27 mai 2017, les populations locales manifestaient pacifiquement pour demander des réponses à l'entreprise minière et la police a tiré à balles réelles. Il y a eu un blessé parmi les manifestants et un mort. Carlos Choc était en première ligne et il a photographié le moment où le policier braque l'arme sur le pêcheur qui est décédé peu de temps après. Après cela, il a reçu des menaces de mort. Et aujourd'hui, il est poursuivi en justice et il risque 30 ans de prison. Donc, il a vécu pendant un an dans la clandestinité. Aujourd'hui, il a pu revenir. Il est en liberté conditionnelle. Mais évidemment, il peut pas continuer son travail. Donc, pendant 8 mois, on a travaillé main dans la main avec lui pour poursuivre son enquête.
Et là aussi, les entreprises, les grosses entreprises qui travaillent derrière ces extractions de nickel, on sait qui c'est. Et ils savent aussi, évidemment, ce qui se passe dans cette mine. Ils n'ignorent rien de la mort de ce pêcheur. Par exemple, j'imagine.
Alors, ce qui était assez surprenant, c'est que de la part de la mine, il niait totalement les manifestations des pêcheurs en disant ces personnes-là ne sont pas des pêcheurs, elles ne sont pas légitimes pour exercer leur droit de manifester. Et quand on se tournait vers les autorités, on a notamment interviewé le ministre de l'Environnement, on lui montrait une photo de ce pêcheur à terre. Il nous disait officiellement, il n'y a pas eu de mort, deux ans après le drame.
Puisqu'ils ne sont pas censés manifester, donc ils ne sont pas censés être morts. Enfin, c'est aussi basique que ça et aussi terrifiant que ça, au fond. Je voudrais savoir, où est-ce qu'on peut lire ces deux histoires, celle du Guatemala, celle de la Tanzanie? Où est-ce qu'on les lit maintenant, là, si on va sur le site de Forbidden Stories, est-ce qu'on les trouve? Et sinon, où est-ce qu'on peut les lire?
Alors, oui, les histoires sont publiées en trois langues sur le site de Forbidden Stories, et on peut aussi retrouver en langue française, dans Le Monde, par exemple.
Et pas seulement, Benoît Colomb, je voudrais qu'on termine avec vous, puisque vous avez travaillé sur les fameuses mines de sable, vous, mafia du sable indienne. Là, pour le coup, on le découvrira demain matin dans le Zoom de France Info, et puis de France Inter, pardon, et puis dans Secret d'Info samedi. Ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, ça sort. On sait pas d'où ça vient. Racontez-nous un petit peu, là aussi, parce que le sable, on a l'impression, alors pour le coup, l'or, le nickel, oui, on sait à quoi ça peut servir. Comment ça, il y a une mafia du sable, cette matière qui nous paraît tellement basique.
Ben oui, on a du mal à l'imaginer, mais il y a un véritable business du sable. C'est un nouvel Eldorado finalement, pour les industriels. On ne l'imagine pas, mais le sable, il y en a partout dans notre quotidien, dans les téléphones portables, aussi. Évidemment dans le bâtiment, mais dans les pneus, les plaquettes de frein, dans les cosmétiques, même dans les émaux de votre salle de bain. Donc, il y en a partout. Et derrière, il y a aussi des mafias. Et notamment en Inde, c'est flagrant, il y a au moins 4 journalistes qui ont été tués et assassinés ou morts dans des conditions extrêmement suspectes parce qu'ils enquêtaient justement sur ce business du sable. Et j'évoquais tout à l'heure Sandhya Ravishankar, qui est une journaliste qui très courageusement, depuis le début des années 2000, enquête sur ce trafic de sable. Il y a des mafias en Inde, c'est dangereux d'enquêter sur le sable en Inde, et elle le vit tous les jours. Elle a évidemment de nombreuses plaintes contre elle, du harcèlement, elle se fait suivre par des détectives, enfin c'est une bataille de tous les instants. Et il se trouve qu'en Inde, effectivement, il y a aussi des conséquences, comme dans d'autres endroits du monde, environnementales, parce que ça détruit les paysages, ça détruit les écosystèmes, et il y a l'érosion des terres, il y a la salinisation de l'eau, donc ça détruit vraiment la vie des hommes.
Mafia, ça veut dire quoi, Benoît? Quand il y a mafia, ça veut dire qu'il y a trafic, en fait. Mafia, ça veut dire quoi?
Mafia,
pour
ça
emmener
veut
ce
dire...
sable où, en fait? Pour en faire quoi?
Alors, mafia, ça veut dire d'abord complicité avec des hautes autorités politiques et policières pour justement contourner la loi. Et en Inde, on a pu le montrer avec Forbidden Stories que la loi a été contournée. Pour prendre l'exemple du Tamil Nadu, donc au sud de l'Inde, depuis 2013, officiellement, il y a une législation très strict qui interdit aux entreprises privées d'exporter du sable. Or, on a pu avoir la preuve que cette interdiction était allègrement bafouée. Et où va ce sable justement illégal exporté? Ben en fait, dans plein de pays, on a pu voir qu'il y avait des pays importants, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, mais aussi la France. On a pu découvrir qu'il y avait des quantités de sable qui étaient illégalement exportées. Alors, certaines entreprises qu'on a pu contacter expliquent qu'elle ne savait pas, et c'est vrai que finalement il y avait un système de corruption qui était organisé, parce que ce système, on a pu documenter qu'entre 2013 et 2016 il y avait pu avoir ces exportations illégales, il n'a été possible justement que parce qu'il y avait des complicités et que peut-être au niveau du port, peut-être au niveau des autorités locales, peut-être au niveau des banques, ça a pu être possible.
Qu'est-ce qui se passe après, une fois que ces histoires sont sorties, sont sur le site et sur tous les journaux, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que parfois il faut reprotéger encore un peu plus ces journalistes, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, Arthur Bouvard, parce que quand l'histoire est à nouveau dans des grands journaux internationaux, la vie de ces gens est à nouveau beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce qui se passe dans l'après-publication?
Là, aujourd'hui, concrètement, on est en contact tous les jours avec les journalistes qui ont accepté de nous parler, effectivement, parce que remettre leur histoire, comme vous le dites, au devant de la scène, ça leur fait courir beaucoup de risques. Depuis le Daphné Project, Forbidden Stories, de toute façon, continue de surveiller toutes les enquêtes sur lesquelles elle travaille.
Évidemment, un droit de suite à chaque fois sur le Daphné Project, mais sur d'autres aussi. Ça veut dire que vous reviendrez aussi sur ce qui se passe au Guatemala, sur ce qui se passe en Tanzanie. On lit sur le site de Forbidden Stories, on peut le lire dans Le Monde aussi. On peut le lire sur le site de France Inter, Benoît. Et aussi, on l'entendra demain à 7h15 chez Léa et Nicolas dans le Zoom de la rédaction. Et puis dans Secret d'Info, un Secret d'Info spécial, c'est samedi à 13h20. Est-ce que j'ai tout bien dit dans le bon sens? Merci beaucoup à tous.
Merci.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe à Bangui, en Centrafrique, avec l'inauguration d'un cinéma. Figurez-vous, sous les radars, Hélène Roussel, vous verrez qu'aux Philippines, les circoncisions en très grand nombre, c'est vraiment du très grand nombre. Angélique Bouin nous dira que les Belges conduisent extrêmement mal. Et puis le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous avez regardé Vladimir Poutine parler pendant plus de 4 heures, mais quelle chance. Exercice rituel, mais popularité remontée quand même.
Et ouais, c'est pas si simple pour le président russe face à la grogne sociale en Russie.
Allez, à tout de suite. Jean-Marc, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Turquie, figurez-vous. Voici Altingen. Leyla, c'est le titre. Ah, voilà. Fabrice Lègle, qui réalise cette émission, m'avait dit « Tu verras, la fin est très bizarre ». Eh ben, c'est vrai. Altingen, Leila, c'est le titre. Sous les radars, c'est tout de suite.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
Sous les radars et Hélène Roussel, direction la Mauritanie pour commencer avec une élection présidentielle qui est prévue samedi. Et parmi les enjeux du scrutin, les descendants d'esclaves.
Les morts noirs, ce qu'on appelle aussi les aratines, représentent 40% de la population, des descendants d'esclaves marginalisés, des sous-citoyens. Il y a pourtant eu plusieurs abolitions dans le passé, pas plus tard qu'en 2015. Une nouvelle loi qui a fait de l'esclavage un crime contre l'humanité, passible de 20 ans de prison. Et bien malgré tout, l'esclavage héréditaire persiste. Privation de liberté dès la naissance, maltraitance, descendants d'esclaves contraints de céder leurs récoltes gratuitement, ou bien encore cantonnés à des métiers comme le gardiennage ou le nettoyage. Il y a donc les descendants, mais il y a aussi les esclaves tout court. Oui, ça existe encore en Mauritanie. 43 000 personnes selon Amnesty International, soit 1% de la population totale. Autre chiffre parlant, dans un système scolaire qui fonctionne à deux vitesses, la communauté aratine concentre 85% des analphabètes du pays. France 24 a rencontré ce père de famille dans son taudis. Ce papa raconte que l'école publique est un échec, qu'il n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants dans une vraie école privée. Il dit aussi qu'il ne pense qu'à ça, la scolarisation de ses enfants. Brahim Ramdan de la Fondation Sahel, lui, est un militant de la cause aratine et il ne mâche pas ses mots.
Il y a beaucoup de bruit, mais dans les faits, il n'y a rien. Il y a une injustice caractérisée. Il y a un racisme d'État.
Un racisme d'État. Le prochain président mauritanien fera-t-il bouger la société? En tout cas, parmi les 6 candidats déclarés, il faudra compter avec le parti anti-esclavagiste, arrivé en deuxième position aux dernières élections présidentielles, à la dernière élection présidentielle en 2014. Les descendants d'esclaves se retrouvent donc au cœur des programmes. On verra ensuite si la Mauritanie passe enfin des paroles aux actes.
Et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Hélène, c'est la saison de la circoncision.
Les gymnases et les salles de classe transformées en salles d'opération, les tables recouvertes de papier journal et des jeunes garçons qui attendent leur tour entassés dans des couloirs. Rite de passage incontournable aux Philippines, où le taux de circoncision est l'un des plus élevés au monde, 90%. Et pas pour des raisons religieuses, non, c'est seulement la tradition. En Tagalog, la langue nationale philippine, non circoncis, c'est carrément une insulte, figurez-vous. Ça veut dire lâche, parce qu'on n'a pas le courage de supporter la douleur ou de surmonter sa peur. En clair, être circoncis, c'est le critère numéro 1 de la virilité aux Philippines. Et difficile, quand on n'a que 12 ans, de voir les choses autrement.
Mas mature po at magiging mas...
Erwin, qui tient son caleçon pour ne pas qu'il vienne frotter la plaie, raconte qu'il est plus mature maintenant, qu'il est devenu un homme et qu'il va pouvoir aider sa famille. L'opération coûte $240 à l'hôpital. C'est un mois de salaire pour un ouvrier à Manille. Autant vous dire que la plupart pratiquent la séance collective, organisée gratuitement par le gouvernement. Anesthésie locale et antibiotiques, certes, mais vu les cris, ça fait mal et c'est visiblement le but aussi. Si on remonte aux racines, la circoncision arrive aux Philippines avec l'islam en 1450, mais elle va perdurer même après, alors que le pays est pendant 3 siècles majoritairement chrétien, et de plus en plus d'ONG dénoncent aujourd'hui l'ablation du prépuce. Dans ces conditions, relève de la pure maltraitance.
Allez, on a beaucoup vu ces images sur les réseaux sociaux, mais vous allez nous les rappeler. On sait bien que rien ne va plus sur la banquise, ça ne s'arrange pas.
Et on en parle de temps en temps, hein, ici, ces ours polaires repérés de plus en plus loin de chez eux et de plus en plus près des villes. Eh bien, voilà encore une en l'occurrence, qui fuit son bout de banquise. Avec la fonte des glaces, c'est son habitat, sa survie qui se retrouve menacée. Donc une ours blanche, affamée, a rôdé cette semaine autour des poubelles de Norilsk, c'est dans l'est de la Sibérie. Une équipe de vétérinaires l'a capturée aujourd'hui. Elle sera renvoyée dans un zoo dans un premier temps pour être soignée, avant d'être libérée. Je vous le concède, c'était un peu triste tout ça ce soir.
C'est un peu triste tout. Ouais, merci beaucoup Hélène Roussel et vous revenez lundi quand même.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Centrafrique que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, mais on ne va pas parler de conflits, on ne va pas parler de violence non plus. Bonsoir Charlotte Cosset.
Bonsoir Fabienne.
Non, ce soir vous nous emmenez au cinéma, Charlotte, au cinéma à Bangui.
Il n'y a pas un bruit dans la salle de cinéma de Bangui. Elle est située au cœur de l'Alliance française et a été inaugurée il y a seulement quelques semaines. Les gens sont ravis.
C'est une très bonne idée s'il y a une nouvelle salle de cinéma à Bangui. Je suis très 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 content et j'encourage aussi les autres à venir participer.
Je suis venu un peu par curiosité pour cette nouvelle salle qui est très bien. C'est super, c'est bien climatisé. C'est une belle décision d'avoir fait ces travaux-là. Je suis ravi.
Le goût du cinéma n'est pas quelque chose de nouveau dans le pays, mais le conflit et les difficultés économiques ont emporté les infrastructures existantes, explique Jean-Claude Prince-Koyak-Bellé, le directeur national de la cinématographie en RCA.
À une époque, il y avait plein de salles au niveau du kilomètre 5, au niveau de la ville. Également dans les arrière-pays, à Bombari, à Bois, il y avait des salles de cinéma. Malheureusement, à la longue, les exploitants de ces salles-là n'arrivaient plus à rentrer en possession de leur investissement. Et donc, beaucoup de ces salles, par exemple le cinéma Le Rex, s'est transformé à des magasins et d'autres salles également se sont transformées à des églises. Mais à l'heure actuelle, la politique, c'est d'amener des gens à comprendre que dans ces salles, il y a une possibilité de se faire de l'argent.
Les salles de cinéma n'étant plus en activité depuis plusieurs années, le directeur de l'Alliance française s'est attelé à ce projet. 2 ans de travail pour créer de toutes pièces une salle à Bangui, mais pas seulement. Il ne s'agit pas pour Olivier Collin de se contenter de diffuser des films français, c'est toute l'industrie du cinéma centrafricain qu'il rêve de voir renaître. Allez.
Pourquoi se consacrer à ça? On peut se dire que dans un pays encore en conflit, c'est pas la priorité.
Bah moi, je pense que si. Globalement, l'art et la culture et l'éducation dans des pays post-crise sont les clés de voûte de la réussite du développement humain. Donc, si c'est la meilleure arme pour le vivre ensemble. Donc, je considère que ça doit être une priorité.
Un projet un peu fou partagé par le réalisateur français Boris Louchkine, venu à Bangui pour la réalisation d'un film sur la photojournaliste Camille Lepage, tuée dans le pays en 2014.
Tourne. Action.
Action Tanguy.
Je suis venu en Centrafrique en avril-mai 2016 avec cette idée de faire ce film. C'était au tout début et je suis venu ici en repérage pour regarder à quoi ressemble ce pays, est-ce que je me plais ici, est-ce que je m'imagine réellement tourner ce film ici. Je me suis dit oui, et je me suis dit, sachant qu'un projet de film de cinéma c'est long, ça veut dire que dans les 3 prochaines années, je vais être très lié à ce pays. Donc tant qu'à faire, je me suis dit, essayons de faire quelque chose en même temps pour ce pays. Et c'est à la suite de ça qu'on a lancé un projet d'atelier, d'abord un premier atelier, puis un deuxième de formation de jeunes réalisateurs centrafricains, et également de jeunes techniciens du cinéma centrafricain.
Ouais, c'est couleur tout cela.
Pourquoi ?
10 films sont nés de la première formation avec les ateliers Varan. Aujourd'hui, ils travaillent au montage de nouveaux courts-métrages, notamment avec la professionnelle Dominique Paris.
Bon, je recadre tout de suite le plan.
Alors l'objectif majeur, c'est de faire un film un peu plus élaboré, où ils ont eu beaucoup plus de temps pour réaliser ce film, pour le tournage, pour le préparer déjà, pour faire des repérages, pour le tournage. L'objectif, c'est qu'il soit complètement autonome, évidemment. L'idée, c'est que donc, ce soit les Centrafricains qui aient en main tous les outils pour raconter un peu leur réalité avec leurs propres yeux, leurs propres regards.
Parmi les jeunes réalisateurs, Marlise Yotoman.
C'était grâce à cette formation que j'ai eu à exposer et à me faire entendre par mon premier film qui s'intitulait Waligara. Donc c'est ma tante, c'était une grande commerçante et puis après les événements qu'a connu notre pays, elle a fait une faillite et elle ne savait pas comment vivre. C'est en travers d'elle que j'ai pu transmettre mon message dans mon premier film.
Son deuxième film parle de la condition de la femme dans le monde paysan en Centrafrique, des films tournés grâce aux apprentissages apportés par les ateliers.
Tout au long de cette formation, on nous avait montré comment tenir la caméra, comment filmer. Et après, on avait fait un stage sur l'image, le son. Et là, c'est maintenant sur le montage. Donc, on a beaucoup appris.
C'est la fin de son pas. Hop.
En fait, moi, je rêve que nos films soient sélectionnés au Cannes ou au Philadelphia, dans des festivals, Et comme ça, on pourrait y participer et parler de notre pays. On parle d'Hollywood, mais on veut aussi qu'on parle de Bollywood.
Charlotte Cosset, pour Un jour dans le monde, à Bangui, merci beaucoup. Allez, on se retrouve juste après Harry Nilsson, Everybody's Talking, c'est sur France Inter.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Harry Nilsson, Everybody's Talking, et Macadam Cowboy, tiens, sur France Inter.
Je suis venu vous parler de rock.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati, per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe, on l'aime ou on la quitte, c'est tous les jeudis dans Un jour dans le monde, alors que l'Europe cherche sa tête et son remplaçant à Jean-Claude Juncker. On y viendra dans le journal de 19h. Nous, on prend le volant, tiens. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Angélique, une étude internationale publiée cette semaine étrit les Belges qui semblent conduire très mal, mais si on y regarde de plus près, ils ne sont pas les seuls à déraper sur les routes.
Ah oui, c'est à lire sur le site de la RTBF, c'est édifiant. Un conducteur belge sur quatre reconnaît avoir conduit en dépassant le taux légal d'alcool dans le mois qui vient de s'écouler. Et ils sont dans ce domaine les derniers du classement, selon cette étude Vias menée dans 32 pays. 6 Belges sur 10 disent par ailleurs rouler au-delà de la vitesse autorisée en ville très régulièrement. Et près d'un sur 3 dit consulter ses mails ou SMS au volant. Mais faut-il leur jeter la pierre?
Mais c'est les seuls à être honnêtes peut-être en fait, non?
Qui sait? Une autre étude publiée récemment par Ipsos pour le compte de Vinci nous apprend... Au niveau européen, 15 conducteurs européens sur 4 utilisent des objets connectés en conduisant. 97% des interrogés reconnaissent que c'est dangereux, mais ils disent qu'ils arrivent à maîtriser leur conduite. On apprend aussi, et là j'avoue que ça m'a laissé totalement sans voix, que 43% des conducteurs pensent qu'ils conduisent bien, voire mieux, quand ils sont fatigués. Je l'ai relu deux fois, pour être bien sûr. J'ai regardé si cette étude avait été publiée un 1er avril, mais non, c'était le 18 avril dernier. Alors, on klaxonne aussi de plus en plus sur les routes routes d'Europe. Hein. Plus d'un conducteur sur deux dit qu'il klaxonne quand quelqu'un l'énerve. C'est en hausse de 7% depuis 2017. Les gens sont plus énervés. Voilà. Et puis j'ai trouvé quand même un bon point pour les Français qui ne se singularisent pas plus que cela quand même dans ce sondage. Mais j'ai été chercher celui-là. En France, on s'arrête, tenez-vous bien, pour faire une pause en moyenne au bout de 2h49, c'est précis, contre 3h17 à l'échelle de toute l'Europe, donc on est meilleur. Les mauvais élèves, ce sont les Polonais qui ne font de break en moyenne qu'au bout de 4h23. Alors imaginez s'ils sont fatigués.
Oui, mais ils conduisent mieux quand ils sont fatigués, c'est ce qu'on apprend grâce à vous. Allez, on passe à toute autre chose. Angélique, le prix européen de l'invention a été remis hier avec une trouvaille autrichienne qui est à l'honneur.
Oui, rien ne résiste à la machine hein, fabriquée par Klaus Feitinger et Manfred Halk. Leur objectif, c'était de mieux recycler le plastique. Leur invention permet de broyer des objets mélangés à d'autres matériaux, comme par exemple une étiquette autocollante sur une bouteille ou une capsule d'aluminium, ou encore de recycler un flacon imprégné d'une forte odeur de shampoing. Leur invention permet, avec tous ces résidus, de fabriquer quand même des granulés de plastique réutilisables, de bonne qualité, et d'élargir donc leurs possibilités de réutilisation. Récompensé également dans la catégorie recherche, il y a un Français, chercheur à l'INSERM, Jérôme Gallon, pour son immunoscore. C'est une méthode qui mesure la réponse immunitaire propre à chaque malade du cancer pour prescrire un traitement adapté. Sa trouvaille est utilisée dans plein de cliniques du monde entier. L'édition 2019 de ce prix, créé par l'Office européen des brevets, a également distingué, on le signale, un Néerlandais pour sa peinture pour bateau écologique. Le classique anti-fouling est très toxique hein, pour les poissons et pour les océans, donc c'est bien. Et puis une chimiste espagnole pour ses recherches sur l'ADN et le père de la batterie au lithium qui lui est un japonais.
Allez, rien à voir Angélique, des nouvelles de Carles Puigdemont ? Dites-moi.
Oui, parce qu'on a suivi dans cette chronique son parcours européen hein, de cet ex-chef du gouvernement régional catalan avec ses colistiers. Carles Puigdemont, qui est toujours en exil ici en Belgique pour échapper au mandat d'arrêt dont il fait l'objet dans son pays. Et bien, malgré son élection comme eurodéputé, il pourrait ne pas siéger au Parlement parce qu'il n'a pas pu prêter serment en fait, à la cérémonie devant la commission électorale espagnole. C'était à Madrid. Il a envoyé des avocats avec des documents, mais ça n'a pas suffi. Mais ça va peut-être lui servir. Hein. Il n'était pas le seul absent de marque, si je peux dire. Le ministre espagnol des Affaires étrangères lui-même n'était pas là. Élu fin mai, il était à une réunion avec ses homologues à Luxembourg. Il a indiqué qu'il était prévu qu'il le fasse ultérieurement. Est-ce que ça plaidera en faveur de Puigdemont ? On verra. En tout cas, des eurodéputés se mobilisent ici. 76 des sortants et des nouveaux entrants ont appelé dans une lettre le Parlement à protéger les droits politiques des indépendantistes catalans élus en estimant que ces droits étaient violés.
Eh bien, écoutez, on pourra suivre ça grâce à vous, Angélique, avec nous depuis Bruxelles, merci beaucoup. On suit aussi l'évolution des top jobs, comme on dit, et ce sera tout à l'heure, dans un instant, dans le journal de 19h.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, c'est un rituel hein, pour la 17e année consécutive. Vladimir Poutine a répondu aujourd'hui aux questions des Russes en direct à la télévision. Vu d'ici, le président russe paraît puissant tant il est présent sur la scène internationale, mais vu de Russie, il a perdu de sa superbe. Les ennuis s'accumulent. Poutine fort à l'extérieur, faible à l'intérieur. C'est votre monde à l'envers.
Alors je vous décris la scène. Veste noire, cravate bordeaux, assez élégant. Vladimir Poutine sur fond bleuté a donc fait face cet après-midi aux questions des Russes. C'était depuis un vaste plateau de télévision sur Pervicanal, la première chaîne de télévision du pays. Et ça a donc duré 4 heures. Les questions ont reflété très majoritairement les inquiétudes économiques et sociales du pays. En résumé, depuis l'été dernier, ça grogne. Et c'est tout de même assez nouveau. C'est tout simple. Le pouvoir d'achat des Russes ne cesse de diminuer. Moins 12% en 5 ans. L'inflation tourne autour de 4 points. La TVA est passée de 18 à 20%. Les transports et les services publics augmentent leurs tarifs. Et en face, les salaires ne suivent pas parce que la croissance est faible. Sans compter que la réforme des retraites dont on avait beaucoup parlé, présentée l'an dernier, reste quand même en travers de la gorge de nombreux Russes. Rappelons que l'âge de la retraite a été repoussé de 5 ans, 65 pour les hommes, 60 pour les femmes. Résultat, aujourd'hui, 20 millions de personnes, peu ou prou, vivent désormais sous le seuil de pauvreté en Russie. Et régulièrement, des mouvements de contestation apparaissent ici et là, y compris dans des petites villes qui constituent pourtant le socle électoral de Poutine. Cet après-midi, le président russe l'a donc promis, ça va s'arranger. mais il a dû admettre que la situation s'est dégradée et c'est un aveu plutôt rare dans sa bouche.
Donc grogne sociale, mais ça ne fait pas pour autant une contestation politique en fait.
C'est vrai, mais ça va quand même un peu plus loin que la simple grogne sociale. Il y a aussi une forme de contestation plus globale au sein de la société civile sur d'autres sujets que le pouvoir d'achat. C'est perceptible sur les réseaux sociaux. Ça l'était aussi lors de cette émission de télévision baptisée Ligne Directe. Soit dit en passant, d'ailleurs, ça n'a rien d'un monologue. Hein. Poutine est vraiment interpellé en direct avec des Russes sur le plateau ou en duplex en extérieur. C'est révélateur d'une contestation qui touche aussi donc à d'autres sujets. On va prendre des exemples. Dans le nord du pays, à Arkhangelsk, il y a une forte mobilisation pour empêcher une immense décharge publique. Ça, c'est l'écologie qui pointe le bout de son nez. À Yekaterinbourg, à l'est de Moscou, les habitants se sont opposés à la construction d'une église dans un parc. Ils ont obtenu gain de cause, malgré l'appui, on le sait, du pouvoir au clergé. À Moscou, la semaine dernière, la mobilisation de la presse, on en a parlé aussi, a permis la remise en liberté du journaliste d'investigation Ivan Golunov. Là encore, le pouvoir a cédé. Ce sont des exemples frappants parce qu'ils démontrent que certaines mobilisations ont des résultats, peuvent faire reculer le gouvernement, y compris sur le sujet ultra sensible des libertés publiques. C'est quand même le signe que la situation politique russe est plus complexe qu'on ne le pense. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec le côté totalement verrouillé du pouvoir en Chine.
Et donc, c'est une vraie menace pour Poutine ?
Alors, on n'en est pas là. Disons simplement que Poutine, sur la scène intérieure, est moins fort qu'il ne l'a été. Parce que l'électorat ne se satisfait pas des succès militaires à l'extérieur. Il réclame des résultats économiques à l'intérieur. D'ailleurs, à l'automne dernier, le parti du président a subi des revers lors d'élections locales. Et la cote de confiance de Vladimir Poutine est en recul. Elle culmine entre 50 et 60%. Franchement, c'est quand même un niveau pas terrible pour un autocrate qui est plutôt habitué à des niveaux de type 80 ou 90%. Une fois qu'on a dit ça, c'est clair que Poutine reste le maître du jeu. Même un exercice comme celui d'aujourd'hui, où il est interpellé directement par les électeurs, contribue en fait à le mettre en majesté. C'est lui qui décide en dernière instance. Il sait faire sauter les fusibles quand il est menacé. Il fait même changer les questions de certains instituts de sondage quand le résultat ne lui convient pas vraiment. Les opposants restent harcelés, les militants des droits de l'homme régulièrement arrêtés, la presse est en liberté surveillée pour ne pas dire plus. Et faire du business n'est pas simple, comme en témoigne l'arrestation dans des conditions douteuses des hommes d'affaires français et américains Philippe Delpal et Michael Calvet. Poutine demeure donc le seul maître à bord, d'ailleurs sans aucun successeur désigné. Mais les mouvements de grogne croissants ressemblent quand même à un sérieux avertissement.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, on reste ensemble pour le téléphone sonne et puis le journal bien sûr de Sébastien Paour.